Chers auditeurs, chères auditrices de Mairie de Résistance, Radio Galère 88.4, nous entamons aujourd'hui une nouvelle émission de Mairie de Résistance, lors de laquelle nous allons commencer par évoquer un petit peu l'actualité internationale, et dans un deuxième temps, on parlera de l'Europe. Au niveau de l'actualité internationale, je viens de lire, on est dimanche soir, que Vladimir Poutine a été réélu avec un score record estimé à 87% des suffrages selon les résultats préliminaires. C'est un résultat auquel tout le monde s'attendait, donc ça ne surprend personne. Récemment, j'ai lu plusieurs articles issus du journal Le Monde ou du Figaro qui expliquaient que depuis longtemps, de toute façon, on savait que c'était Vladimir Poutine qui allait gagner puisque c'est lui... l'homme politique qui a le plus qui a le réseau le plus important en Russie, et donc ce serait difficile pour d'autres candidats de prendre sa place à l'heure actuelle des choses. Donc ce résultat ne surprendra personne, simplement le résultat en question pourrait inquiéter quelque peu, même si ce résultat est déjà était déjà évident avant même qu'on le sache, on ne peut pas ne pas penser à la guerre en Ukraine lorsqu'on évoque Vladimir Poutine. Je ne pense pas que ça change grand-chose. Ces derniers temps, et là je rebondis sur la suite de l'actualité internationale, on a vu que la une des journaux portait sur le fait que la France redouble de vigueur en matière d'apport d'aide à l'Ukraine, avec la fourniture d'armes et de moyens financiers. Il reste à voir comment ça va se passer dans les mois à venir. C'est crucial pour l'avenir de l'Europe, je pense. C'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de faire mon émission sur l'Europe, puisque celle-ci est quelque peu menacée dans son optique et sa vision d'une paix dans le monde par justement cette guerre. Il faudra donc attendre quelques mois pour voir comment ça évolue, en espérant que ça ne va pas dégénérer et que on va arriver à trouver des éléments, à mettre en avant des éléments qui permettent d'aboutir quelque peu à un processus de paix le plus tôt possible. Et une entente entre les parties, dont fait partie la Russie, mais dont font aussi partie l'Europe, qui est profondément impliquée dans le conflit, avec une vision d'une Europe élargie avec l'Ukraine, et ainsi que l'aide apportée à celle-ci, ainsi que les États-Unis. Voilà donc pour ce qui concerne l'Est du monde. En France, on ne peut pas dire que la situation soit spécifiquement rose, avec d'abord toutes ces annonces qui ont été faites sur une recrudescence de l'aide à l'Ukraine. Beaucoup de polémiques sur l'éducation nationale. On avait eu la polémique de la ministre qui avait fait une déclaration maladroite et qui a fait l'objet de beaucoup d'articles dans les journaux. Cette polémique a mis en avant le fait que parfois l'école publique n'est pas toujours... bien vu, qu'on ne lui fait pas toujours confiance, et donc ça nous montre qu'on s'éloigne très fort actuellement du concept d'une scolarité laïque telle que l'ont voulu ses fondateurs. Je reprends un petit peu les dates qui ont mis en avant l'idée d'une école laïque et obligatoire pour tous, sur laquelle on compterait. Il faut savoir d'abord que c'est d'abord le principe de laïcité en matière religieuse qui est au fondement du système éducatif français depuis la fin du XIXe siècle. L'enseignement public est laïque depuis les lois du 28 mars 1882 et du 30 octobre 1886. Elles instaurent l'obligation d'instruction et la laïcité des personnels et des programmes. L'école devient gratuite, laïque et obligatoire sous la Troisième République, donc par la loi du 16 juin 1881, ça c'est l'école gratuite, et ensuite de l'instruction primaire obligatoire, et elle participe à laïciser l'enseignement public par la loi du 28 mars 1882. Les lois Jules Ferry, les lois qu'on vient d'évoquer, ce sont les lois Jules Ferry. Donc, école gratuite, 16 juin 81, et école primaire, instruction primaire obligatoire, loi du 28 mars 1882. Ces écoles sont associées au nom de Jules Ferry, dirigeant politique républicain des débuts de la Troisième République, qui a exercé la fonction de ministre de l'instruction publique deux fois entre 1879 et 1883. Ces lois Ferry incluent, en dehors des deux lois déjà citées, des lois relatives à la formation des professeurs à l'enseignement secondaire et supérieur ou au fonctionnement de commissions administratives compétentes en matière d'enseignement. La loi Goblet du 30 octobre 1886 parachève les lois Jules Ferry en confiant à un personnel exclusivement laïque l'enseignement dans les écoles publiques. Elle remplace les instituteurs congrégationnistes et elle est rattachée à ces lois. Jusqu'ici, c'était la loi Fallou qui régissait l'éducation en France. Il y a eu une évolution progressive vers la gratuité. Et avant les lois Ferry, la loi Guizot avait institué une instruction morale et religieuse obligatoire. Celle-ci avait été maintenue avec la loi Fallou. Ces lois sont une victoire contre la droite monarchiste qui avait été évincée du pouvoir après la crise du 16 mai 1877. En fait, il faut savoir une chose que nos auditeurs ne savent peut-être pas, c'est que les lois Ferry sur l'instruction sont une conséquence de la guerre de 1870 qui avait été perdue contre la Prusse. Les soldats allemands étaient jugés mieux instruits que les Français. Et comme ne cesse de le rappeler la presse contemporaine, ou le discours de Jules Ferry à Reims en 1882, où il dit « L'instituteur prussien a fait la victoire de sa patrie, l'instituteur de la République préparera la revanche. La Troisième République cherchera à compenser donc le handicap français afin justement de préparer cette revanche. » Dès le siège de Paris en 1870, Jules Ferry, alors maire de Paris, avait instauré une commission mixte de l'enseignement. Les travaux de cette commission portaient sur la gratuité, la laïcité et l'éducation des filles. Ils sont consignés dans un rapport nommé Delon-Coignet. Il y a une chose encore plus importante et qui est importante de nos jours. Maintenant, la gratuité et la laïcité sont devenues des choses évidentes, mais quand même pas si évidentes que ça, si on considère les dernières polémiques au propos du voile, ainsi que ce qui est arrivé à certains personnels enseignants. Ces dernières années, j'avais fait une émission complète sur l'assassinat d'un enseignant qui avait été décapité à la sortie de son lycée il y a quelques années. Elles doivent être sur le site, un podcast. Donc, ce que je disais, c'est que bon, ces valeurs dont je vais parler maintenant sont remises en question aujourd'hui. Il faut bien en avoir conscience. Mais elles viennent de cette époque et ça rebondit sur notre période actuelle où il est très évident qu'on doit retourner vers cet objectif-là. Les lois Jules Ferry étaient fondées sur la conviction qu'elles permettraient l'introduction progressive des idées républicaines dans les régions de France les plus isolées. Donc cela participait d'une vision politique générale dont l'objectif était de mettre en place un projet collectif et citoyen qui noue ensemble les citoyens de la République jusque dans les contrées les plus rurales. Ce sont les hussards noirs de la République qui maintiennent l'idée que la République est le seul système capable de s'adapter au progrès, qui était une notion importante au XIXe siècle. On cherche à inculquer aux jeunes Français un patriotisme fervent, ainsi que de freiner, selon ça c'était l'objectif de Ferry, la progression des idées socialistes et anarchistes. Celui-ci a eu l'occasion de les combattre lors de la Commune de Paris. Dans un discours au Conseil général des Vosges en 1879, il déclara « Dans les écoles confessionnelles, les jeunes reçoivent un enseignement dirigé tout entier contre les institutions modernes. Si cet état de choses se perpétue, il est à craindre que d'autres écoles ne se constituent ouvertes aux fils d'ouvriers ou de paysans, où l'on enseignera des principes totalement opposés, inspirés peut-être d'un idéal socialiste ou communiste emprunté à des temps plus récents, par exemple à cette époque violente et sinistre, comprise entre le 18 mars et le 24 mai 1871, qui est la Commune, hein, je le rappelle. » Donc Jules Ferry, il n'est pas tout rose, parce que moi je suis quand même assez favorable aux idées véhiculées par la Commune, mais il a compris qu'il fallait que l'école soit laïque, gratuite et obligatoire, et il a compris aussi que l'école et que la politique éducative de l'État étaient fondamentales pour véhiculer les idées de la République. À une époque où on est encore, il y a beaucoup de tendances politiques qui se heurtent les unes aux autres, alors même qu'aujourd'hui, même si certains politiques sont un peu hypocrites quand même, la République, c'est quand même devenu un consensus. À l'époque, l'idéal républicain, c'était pas l'idéal de tous, et il y avait encore les monarchistes et les bonapartistes qui s'opposaient les uns aux autres. Donc, qui s'opposaient les uns aux autres et qui menaçaient justement l'instauration de la République. Les hommes politiques qui sont dans la lignée de Jules Ferry ont réussi leur projet d'imposer l'idée d'une doxa républicaine à tous les Français. Et elle est encore valable aujourd'hui. Et j'allais le dire, donc pour en revenir aux dernières polémiques, elle est remise en cause parce que il y a aujourd'hui peut-être eu un certain... On paye aujourd'hui peut-être un certain laisser-aller dans nos politiques éducatives. On n'a pas voulu mener les choses jusqu'au bout. On a négligé certaines choses, on a laissé les écoles privées s'ouvrir et concurrencer l'école publique aux dépens de celle-ci. Et donc forcément, aujourd'hui, il y a des polémiques. Et ce que la ministre qui a fait polémique avec sa malencontreuse intervention, phrase, sur le choix fait par elle pour ses enfants en matière d'école, ne concerne pas qu'elle. Ils sont nombreux, les gens qui cherchent à modifier, à passer au-delà de la loi ou de la réglementation pour mettre leurs enfants dans les meilleures écoles. Et on ne peut que les comprendre, bien entendu. Ou alors, on peut, en tant que parent d'élève, s'investir de manière très approfondie dans l'école de ses enfants, si on en a le temps et la possibilité. Et sachant que souvent, on risque d'aboutir à l'échec parce que c'est pas que les parents d'élèves qui commandent. Donc voilà. Aujourd'hui, il y a une polémique importante puisque le Premier ministre veut mettre en place des groupes de niveau. Les arrêtés qui officialisent ces évolutions ont été publiés ce dimanche au Journal officiel de la République. Ils cherchent et ils visent à rassembler les élèves les plus en difficulté et en effectif réduit. Et donc, cela remet en cause en fait une certaine forme d'égalité républicaine. Et effectivement, il y a une remise en cause de la République de nos jours. Je pense que tout le monde l'a remarqué, les valeurs républicaines sont quelque peu mises de côté, à la fois par un certain laisser-aller, là je pense aux contraventions au principe de laïcité et à la liberté de penser, qui sont commises par des groupuscules ou par certaines personnes isolées. Et puis, d'un autre côté, il y a aussi un abandon des valeurs républicaines par l'élite de la nation, par l'élite qui est au pouvoir, parce que celle-ci, qui n'est peut-être pas suffisamment proche du terrain et n'est peut-être pas suffisamment compétente pour savoir quels sont les véritables enjeux qui se profilent dans la population scolaire d'aujourd'hui. Et je ne sais pas, je ne suis pas persuadée que notre école va devenir une école d'excellence dans les années à venir. Je pense qu'il y aurait une remise en cause très profonde à faire. Et je ne sais pas si... je ne suis pas persuadée qu'aujourd'hui, on aille dans le bon côté des choses. Sachant que, en ce qui concerne les groupes de niveau, il faut voir après quelles sont les mesures qui vont être mises en place et qui vont permettre, éventuellement, peut-être, de pallier à une certaine inégalité et à un certain isolement de certains élèves défavorisés ou sur le plan intellectuel, social ou économique. Il faudra voir ce qui va être mis en place après. Peut-être que ces groupes de niveau vont permettre à certains élèves, espérons que ce sera au plus grand nombre, de mieux réussir leur scolarité et peut-être pour certains d'intégrer plus tard des groupes à niveau supérieur. C'est à voir. Toujours est-il qu'il faut quand même espérer que ça ne va pas conduire à une ostracisation de certains groupes d'élèves. Voilà. Voilà pour ce qui concerne l'école. Voilà, donc on reprend sur l'actualité. On n'a pas encore parlé de la guerre en Palestine. Je n'ai pas l'impression que les choses aient beaucoup évolué. Olaf Scholz, chancelier allemand, est allé à Jérusalem et il a parlé de la situation dans la bande de Gaza. Et il a fait appel ce dimanche, donc hier, à un accord sur les otages et un cessez-le-feu durable. Rappelons que nous en sommes au 163e jour de la guerre d'Israël contre le Hamas. On n'ose plus dire Israël contre Palestine, puisque on se demande si la Palestine existe encore. Elle était déjà réduite à une parcelle de territoire considérablement diminuée. Est-ce que on peut aujourd'hui parler d'une Palestine? Je crois que après la fin de la guerre, c'est une polémique à laquelle tout le monde va devoir participer. Dans l'optique certainement de la faire renaître de ses cendres. En tout cas, on ne parle pas de guerre d'Israël contre le Hamas, contre la Palestine. Aujourd'hui, on parle de la guerre de l'Israël contre le Hamas. Je rappelle que le Hamas est un groupe islamique armé issu du Liban, d'obédience à dominante chiite, qui fait donc partie de l'arc chiite qui existe depuis un certain nombre d'années au Moyen-Orient et qui regroupe le Liban, l'Iran, ainsi que la bande de Gaza, justement, où sévissaient des groupes armés issus les groupes armés qui depuis un certain nombre d'années se révoltent contre la domination et la colonisation par Israël. Le Hamas est palestinien, c'est une branche armée. Il a toujours été en Gaza. Donc il a était principalement financé, je le disais tout à l'heure, par le Hezbollah, qui est un autre groupement armé d'obédience chiite situé au Liban. Donc le Liban a quand même quelque chose à voir avec tout ce qui se passe en ce moment. L'arc chiite passait par l'Iran et finançait le Hamas. Donc quand on dit qu'il y a une guerre contre Israël et le Hamas, on occulte là aussi tout un peuple, puisque les Palestiniens, s'ils considèrent certainement le Hamas par opposition à l'armée israélienne, qui ne les a pas traités avec subtilité et délicatesse, ces derniers restent néanmoins, je parle des populations civiles, dissociés du Hamas à proprement parler, puisque ce dernier n'est rien d'autre qu'un groupe armé, je le rappelle, une branche armée. Et donc, quand on parle, ça choque beaucoup, ça me choque beaucoup, quand on parle d'une guerre d'Israël contre le Hamas, parce que ça laisse vraiment entendre, et d'ailleurs c'est vrai, c'est vraiment une guerre d'Israël contre le Hamas, c'est pas les autorités palestiniennes qui ont déclaré la guerre ouvertement à Israël, comme si elle n'avait plus de poids, et comme si elle n'existait plus, comme si elle n'était plus légitime, c'est un groupe armé qui a pris la place. Donc en général, quand un État entre en guerre contre un autre, il y a la guerre, donc une guerre c'est toujours... absurde, mais il y a quand même derrière chaque État, chaque belligérant, un projet politique. Alors qu'ici, avec le Hamas, on se demande de quel projet politique il s'agit. Je ne critique pas le Hamas, bien entendu, mais pas davantage que Israël, mais simplement je me demande où se situe dans tout ça le projet politique palestinien. Et je pense que c'est le projet politique palestinien qui est le plus important dans tout ça. Un projet politique palestinien qui ne serait rien d'autre que des attaques perpétuelles avec des bombardements et des sévices contre les populations civiles qui ont déjà beaucoup subi ces 20 dernières années et même davantage. Par un groupe armé financé par l'archiite venu à la fois du Liban et de l'Iran et peut-être d'autres États me semble un peu réducteur. Je pense vraiment qu'il va falloir derrière tout ça, et là je pense que nos politiques qui statuent aujourd'hui sur la question de la guerre entre Israël et le Hamas devraient en avoir bien conscience que derrière tout ça, l'enjeu c'est le projet politique palestinien qui jusqu'ici c'est plus ou moins adapté, on va dire, dans la mesure du possible et avec les moyens du bord, au projet politique israélien. Et donc, il y a bien une question d'un projet politique israélien, d'une part, d'un projet politique palestinien, d'autre part, qui se doit d'être davantage défini et affirmé. Or, on se demande aussi du côté israélien où est le projet israélien à proprement parler, puisque ce dernier, finalement, aujourd'hui, se résume à une guerre contre un groupe armé qui est proche de sa frontière. Je pense que c'est très réducteur. Je pense qu'il est urgent qu'aujourd'hui, les dirigeants à la fois palestiniens et israéliens, aidés d'autres dirigeants dans le monde, puissent reconstruire leur projet politique, le réaffirmer, le rendre public. Et il est bien entendu que ces deux pays étant voisins et en guerre perpétuelle, de manière plus ou moins larvée parfois et aujourd'hui de manière ouverte, se doivent d'inclure dans leurs projets politiques respectifs la présence de l'autre. L'autre, pour les Palestiniens, c'est Israël, et l'autre, pour Israël, c'est la Palestine. Donc, ces projets politiques doivent bien sûr inclure des visées et des objectifs d'entente et de construction progressive
je voulais même dire, de reconstruction, puisqu'aujourd'hui, il y a eu des destructions importantes qui ont été faites de manière matérielle sur... sur le territoire palestinien, mais également sur le territoire israélien, mais également dans les esprits, dans l'inconscient des gens, puisque beaucoup ont souffert et ont subi des traumatismes des deux côtés. Et donc, je pense qu'il va falloir vraiment qu'il se mette en place une plateforme Israël-Palestine qui regroupe des intellectuels, des savants, des experts de la géopolitique, des psychologues, des psychanalystes, des économistes aussi, c'est très important, qui envisagent pendant au moins une décennie de redéfinir les rapports entre Israël et Palestine en tenant compte des projets politiques des deux États et en veillant à mettre en avant des points communs à un moment où c'est devenu trop tard pour éviter le pire. C'est-à-dire que ce travail qui devait déjà être fait avant la guerre va maintenant devoir se compliquer d'un travail fait sur la réparation des traumatismes qui ont été commis et donc des haines et des désirs de vengeance que cela suscite pendant cette guerre. Voilà. Donc voilà où on en est. Est-ce que l'allocution du chancelier Olaf Scholz, qui s'était rendu dimanche à Jérusalem, va être entendue? J'espère que oui. Je rappelle que Jérusalem est une ville au sein de laquelle, qui fait partie du patrimoine de l'humanité, sur laquelle se sont greffés depuis très très longtemps, des siècles et des siècles, les espoirs et les croyances de beaucoup d'individus, puisque c'est la ville des trois monothéismes. Or, les trois monothéismes doivent être considérés, je ne fais pas de théologie de bas étage, mais il faut considérer que les trois monothéismes sont comme des pansements et des baumes qui ont été mis en place au sein des sociétés du Moyen-Âge et de l'Antiquité pour aider les populations concernées géographiquement par ces trois croyances à guérir de leurs blessures. Et donc, il est très important que Jérusalem... Qu'on puisse repenser la position de Jérusalem et son statut à l'aune de cette plateforme dont je souhaite qu'elle va se créer, formée d'experts et surtout de beaucoup de Palestiniens et d'Israéliens, pour la discussion. La discussion, la parole, c'est très important. Et je pense que les trois monothéismes doivent y être très présents pour représenter la ville de Jérusalem et le patrimoine qu'elle offre à tous, ainsi que pour représenter les différents croyants. Or, quand on est croyant, on ne souhaite pas réduire son voisin à peau de chagrin, ni on ne souhaite pas non plus affamer les populations entières ou les bombarder. Donc voilà. Pour en finir avec l'actualité mondiale, vous remarquerez que l'actualité mondiale que l'actualité mondiale est bien loin de se réduire à la guerre aujourd'hui en Palestine et ainsi qu'à la guerre aujourd'hui en Ukraine, mais ce sont deux faits très importants, on ne peut pas les occulter. Je vais réparer un peu une erreur que j'ai faite la semaine dernière. Vous allez voir de quoi il s'agit. Si vous avez écouté l'émission la semaine dernière, vous le saurez. Et je vais passer une musique, vous la reconnaîtrez peut-être. Et ensuite, après la musique, on discutera un petit peu de l'Europe. Voilà, c'était Nothing Else Matters qui a été joué par d'autres musiciens que Metallica. C'est en fait Phil Seeholzer qui est à l'origine de ce concept. Il rejoue des grandes des choses, des grandes des grands titres de la musique rock. Il les rejoue avec de la guitare sèche et des instruments de musique classique. J'espère que vous avez aimé. À la fin de l'émission, on mettra l'autre Metallica, l'autre Nothing Else Matters, celui de Metallica. D'ailleurs, c'est le sien qui a été emprunté avec certainement leur accord. Et je remercie ces artistes, à la fois Metallica et les artistes qu'on vient d'entendre, parce que j'ai beaucoup aimé. Et comme je l'avais dit la semaine dernière, on s'est trompé, on n'a pas mis la bonne musique. Et c'était un autre morceau important qui était joué aussi en version classique. Je trouve que c'est une très belle idée et ça permet de voir qu'effectivement, la musique classique et la grande musique rock se rejoignent toujours. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais, les grands groupes de rock, AC/DC, Aerosmith, Metallica, tout ça, se sont toujours inspirés plus ou moins de grandes symphonies d'auteurs classiques. Et là, c'est une preuve, c'est encore une évolution pour moi dans la musique. J'ai beaucoup apprécié. Voilà, j'espère que vous aussi. C'est simple, il suffit d'aller sur YouTube et taper Metallica Mozart. Donc je voulais parler un petit peu de l'Europe, puisque l'Europe, en fait, dans un monde où aujourd'hui, notamment avec la guerre en Ukraine, la paix est quelque peu menacée, l'idée d'une Europe telle que l'ont ouverte Schuman et Monnet dans leur discours dans les années 50, quand l'Union européenne a été en train de se mettre en place de manière progressive, d'abord avec le traité, la CECA, la communauté économique du charbon et de l'acier, puis la communauté économique européenne, suite à laquelle on allait arriver en 1990. En 2000, pardon, je ne me souviens plus, à l'unification monétaire, pardon, c'est bien en 2000, puisque Maastricht, c'était en 1995, à l'époque, il y avait, derrière l'idée d'une Union européenne, on n'était pas très loin de la guerre 39-45, il y avait l'idée d'une montée progressive vers la paix dans le monde, une paix durable. Ça se doublait à l'époque, bien entendu, d'autres initiatives, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, avec l'édification comme étant un sommet souhaitable qui pourrait représenter une primauté vis-à-vis des droits internes, mais ce qui n'a pas été le cas, bien entendu, on l'a déjà déploré plusieurs fois lors de cette émission, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui, bien entendu, est très loin de constituer, d'avoir un statut de primauté vis-à-vis des droits internes, voire même des autres droits. Malheureusement, c'est une grande défaillance du XXe siècle. Je crois que le plus grand échec du XXe siècle, ça n'a pas été les deux guerres mondiales, ça a été le fait d'échouer dans la mise en place justement d'une primauté du droit international en ce qui concerne les grands principes. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme est le premier de ces grands principes, les grands principes les plus importants. Et ça, c'est un grand échec du XXe siècle. Et j'espère que ce qui nous arrive en ce moment va conduire au cours du XXIe siècle, justement, à instaurer cette primauté du droit international sur les droits internes des pays. On a l'impression qu'elle existe parce que, bien entendu, il y a l'ONU, il y a les sanctions internationales, il y a l'opprobre de la communauté internationale et de l'opinion publique, et puis bien toutes les sanctions économiques qu'on peut apporter via l'OMC aux États qui ne respectent pas les droits de l'homme et les droits mis en avant au sein de l'Organisation des Nations Unies. Mais on voit bien que cela n'est pas suffisant. Et donc, il y a certains États qui ne se sentent pas concernés, d'autres qui font ce qu'ils veulent chez eux. Et donc, même parmi les plus démocratiques. Et donc, je pense que, en fait, encore une fois, si on veut mettre en place une primauté quelconque, quelque part, de grands principes universels, sans vouloir être trop candide, il ne faut pas que ça vienne d'une seule élite, et il ne faut pas que ce soit mis en place autrement que par ce que d'ailleurs l'ONU plébiscite lors de ses réunions, que ce soit mis en place autrement que par des groupes de travail qui s'organise sous forme d'agora et de dialogue démocratique, mélangeant les genres, mélangeant les individus entre eux et les lieux de provenance. Quelque part, le fait que les États-Unis aient voulu continuer à dominer un petit peu l'Europe et puis le reste du monde, ça a conduit beaucoup d'États à ne pas forcément toujours obéir et à ne pas s'investir suffisamment dans le fonctionnement de l'Organisation des Nations Unies au jour le jour. C'est-à-dire qu'on participe, on envoie du monde pour montrer qu'on fait partie de la communauté internationale, mais on ne respecte pas suffisamment, on ne rend pas suffisamment important dans les droits nationaux toutes ces chartes et toutes ces déclarations de droits qui sont émises et après avoir été travaillées au sein de l'Organisation des Nations Unies. C'est là qu'on peut parler d'un échec. Aujourd'hui, on n'en serait pas arrivé à la situation à laquelle on est confronté en Ukraine et en Palestine si on n'avait pas échoué dans cette faculté de mettre en place une doxa internationale. Une primauté du droit international. Alors, bien entendu, ça ne veut pas dire que le droit international doit primer sur les droits internes comme le fait le droit de l'Union européenne. Ça serait encore trop complexe, mais on pourrait se contenter, ce serait déjà pas mal, de le faire au niveau des droits fondamentaux, des droits de l'individu. Je pense que ça, c'est très important. Au sein de l'Union européenne, il existe également des droits de l'homme qui sont mis en avant. Et là encore, l'Union européenne s'est faite de manière trop rapide. Je pense qu'on a trop vite accepté trop vite que certains États en fassent partie. Je pense aussi qu'une des principales causes de la guerre en Ukraine actuellement est le fait que l'Union européenne ait voulu mettre en avant l'idée d'une Ukraine européenne qui en fasse partie sans un travail préalable sur la réalité de l'identité ukrainienne. Puisque l'identité ukrainienne est double, je l'ai déjà dit, c'est un pays qui devrait être un pays à double nationalité, un pays à binationalité. Je veux dire qu'il y aurait une Ukraine, une et indivisible, au sein de laquelle il y aurait deux ensembles, un plus proche de l'Est et un plus proche de l'Ouest. Ce qui n'empêcherait pas, par ailleurs, que la première partie fasse partie du bloc européen et de l'Union européenne, et la deuxième partie, celle qui est proche de l'Est et qui est pro-Russie et qui est pro-russe, fasse partie de l'Union eurasiatique. Au contraire, ça ferait de l'Ukraine un territoire qui permettrait de faire des échanges entre l'Union eurasiatique et l'Union européenne. On le sait, on l'a vu dans l'histoire mondiale, ce n'est pas autrement que par l'échange économique, l'échange culturel et l'échange intellectuel que, et ainsi peut-être quelque part culturel aussi, même si je le mets un petit peu de côté puisque je suis laïque, je suis laïque mais très ouverte sur les différentes dimensions
culturelles qui peuvent animer une société. Et donc, si on avait tout de suite fait ce travail sur la réalité de l'identité ukrainienne, au lieu de vouloir à tout prix que l'Ukraine devienne très rapidement européenne pour pouvoir constituer un bloc occidental qui puisse s'opposer à la Russie et à l'Union eurasiatique, eh bien, on aurait tout gagné. Et là aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure pour la Palestine, il y a tout un travail à faire et qui va devoir être fait après la fin de la guerre en Ukraine avec avec les gouvernements de l'Est et notamment celui de la Russie ainsi qu'avec ceux de l'Ouest, en mettant en avant bien entendu d'abord les gouvernements européens et non pas américains. Et ça, c'est très important et nous avons vraiment échoué dans tout ça. Je veux dire que là-dessus, l'Union européenne a un petit peu échoué dans sa volonté de mettre en place une paix durable. Même si sur le plan économique et puis sur le plan, j'allais le dire déjà, agricole et environnemental, il y a énormément de choses positives qui ressortent de l'Union européenne et qu'on ne doit absolument pas mettre fin à l'Union européenne. Ça, c'est très important, ni détruire le travail qui a déjà été fait jusqu'ici. Et je pensais à deux choses. Il faut que dans les années à venir, on construise notre Europe politique. Une entité territoriale qui a un projet politique, c'est une entité qui va de l'avant, qui sait où elle marche. Et puis, dans un deuxième temps, il faut absolument continuer à construire l'Europe culturelle à laquelle on parle tout le temps de l'Europe économique, mais l'Europe culturelle, elle est très importante et il va falloir tout faire pour la mettre en place de manière durable. Les échanges culturels, les échanges linguistiques sont très importants. Voilà. Je vais en finir là. Peut-être qu'un jour, quand on aura le temps, mais je vois bien que le temps passe et que je n'ai pas le temps de faire tout ce que je veux, on pourra on fera une émission complète sur l'Union européenne. Je termine cette émission en vous souhaitant à tous, très chers auditeurs, une excellente semaine, en espérant qu'à la fin de la semaine, il y aura eu des progrès dans la paix dans les deux régions du monde qui sont concernées, et peut-être encore dans d'autres où il y a aussi des guerres. Et nous allons passer cette fois-ci la version originale de Nothing Else Matters de Metallica. On finit avec ça. J'espère que nos chers auditeurs aimeront. Tout le monde connaît. Je vous laisse écouter. À la semaine prochaine.
Thank you.